précédent épisode consacré à Kubernetes, l'un de ses papas, Brendan Burns, nous disait qu'à terme, les développeurs ne sauront même plus qu'ils utilisent Kubernetes. Avec l'apparition d'Azure Container Apps, un grand pas est fait dans cette direction. À la fin de cet épisode, vous pourrez dire, tel Monsieur Jourdain, que vous faites du Kubernetes sans que vous n'en suciez rien. Alors, plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull request.
Bien, pour nous parler des principes concernant les Azure Container Apps, je reçois aujourd'hui Damien van der Kerkhoven. Oh là, ça y est, j'étais sûr que j'allais me planter. van der Kerkhoven, .NET Architect chez Onyrix et auteur du blog DamienVDK.net. Bonjour.
Bonjour Richard.
Et Christophe Gigax, qui est Cloud Solution Architect dans le groupe Hager, MVP, Microsoft MVP depuis 2017, catégorie Microsoft Azure, auteur d'un livre sur ASP.NET Core aux éditions ENI et formateur LinkedIn Learning sur les sujets de Microsoft et Azure. Donc, écoutez, vous êtes là pour nous parler des Azure App Container ou Azure Container App. Je ne sais pas dans quel ordre ça se dit exactement, parce que je vous avoue.
Azure Container App.
Je vous avouerai que j'y connais rien. Donc, alors, qu'est-ce que c'est exactement ce truc-là ? Il y a quelques mois, on avait parlé de Kubernetes avec deux spécialistes dans le domaine. Je vous mettrai le lien sur le podcast correspondant. Mais là, c'est légèrement différent. Donc, Damien, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est ce truc-là ?
Oui, alors c'est un nouveau service Azure qui a été annoncé en novembre 2021 lors de la Microsoft Init et qui était déjà disponible en preview et qui a été rendu disponible en mai 2022. C'est un service qui se base sur Azure Container Apps, sur Kubernetes, pardon. Et donc, c'est vraiment un service qui se base sur Kubernetes, mais qui va en fait masquer le fait qu'on tourne sur Kubernetes et qui va permettre de se concentrer uniquement sur la partie développement et la partie business. Et donc, ça permet de créer des architectures microservices, des API publics, mais aussi faire des processing sur de l'event driven via KEDA, et ça je pense que Christophe reviendra sur le sujet plus tard. Mais l'avantage c'est qu'on n'a pas à se tracasser de l'infrastructure qu'il y a derrière, des VM dont Kubernetes a besoin. C'est vraiment Container Apps, c'est vraiment du serverless, donc on peut d'ailleurs même scale down à zéro et ne rien avoir à payer parce qu'on n'utilise pas les ressources. Comme j'ai dit, donc on n'a pas à gérer la complexité de Kubernetes. D'ailleurs, on n'a même pas du tout accès à l'API de Kubernetes depuis Container Apps. Il s'est fait exprès, c'est voulu. Tout ça. Et le but derrière, c'est en créant Azure Container Apps, ils se sont basés sur les expériences passées et ont mis en place toutes les bonnes pratiques qu'ils ont appris depuis pour les intégrer dans Azure Container Apps. Alors Azure Container Apps, c'est plein de fonctionnalités. Hein. Comme j'ai dit, on peut gérer tout ce que auto-scaling, notamment par KEDA, par CPU, etc. On a la révision des applications. On a forcément la gestion des microservices. On verra qu'il y a l'intégration d'Azure qui est également dedans. On peut faire du split des trafics, par exemple, pour faire de la B testing. On a vraiment plein de trucs. Je pense qu'on va prendre le temps de découvrir tout ça. Et c'est un service Azure, donc c'est disponible depuis le portail. On peut créer évidemment des Azure Container Apps avec les Azure CLI ou Biceps ou quoi que ce soit. Et je propose de continuer pour découvrir un peu plus plus en profondeur ce que fait Azure Container Apps.
Oui, donc si je comprends bien, c'est une sorte d'abstraction de Kubernetes. C'est un petit peu Kubernetes pour les nuls, en utilisant les meilleures pratiques qui existent sur Kubernetes.
C'est ça, c'est vraiment une couche d'abstraction. Alors, je dirais pas pour les nuls, mais je dirais que c'est une couche d'abstraction qui, justement, nous permet de nous focaliser sur la partie développement, la partie business sans devoir associer l'infrastructure complexe que demande Kubernetes.
D'accord. Alors, justement, quelles sont les principales différences entre Azure Container Apps, AKS, donc l'accès direct à Kubernetes, et d'autres possibilités comme les Azure Functions? Christophe, tu peux nous dire quelque chose là-dessus?
Ouais, effectivement. Alors, effectivement, avec tous ces services-là qu'on a à notre disposition, en fait, on se demande un peu sur quoi partir et pour quels usages, parce que là, on en a vraiment à toutes les sauces, hein. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors en fait, pour essayer d'expliquer les différences entre tous ces services, il faut juste réimaginer un petit peu la stack cloud qu'on peut avoir. On peut avoir de l'IaaS, donc du PaaS, du SaaS, du serverless. Et en fait, je vais essayer juste de replacer un petit peu ces différents services dans cette stack pour justement en fait illustrer qu'est-ce que tu gères et qu'est-ce que tu ne gères pas finalement. AKS, ça va être vraiment un service de type CAS, qui est hébergé dans le cloud. Donc, c'est-à-dire que c'est un Kubernetes qui est hébergé. Par contre, tu as toujours, toi, la main sur le cluster. Donc, tu as possibilité de te loguer sur le cluster, d'installer ce que tu veux, ce que tu as besoin sur le cluster. C'est juste que le NoMaster, il est géré par le cloud. Et ce sont les VM qui sont mises à disposition pour toi par Azure. Mais du coup, tu as vraiment full liberté sur ce que tu veux, sur ce que tu peux installer sur le cluster. Et du coup, en termes de pricing aussi, tu payes à la VM. Ça, c'est important. Je dirais ensuite que juste au-dessus, tu as justement Container Apps, qui est donc, on va dire, un service CAS, mais qui est en mode serverless. Donc, tu as une couche d'abstraction supplémentaire. Tu n'as pas accès au cluster qui est en dessous. Par contre, il va fonctionner, entre guillemets, de la même manière. C'est de la containerisation. De l'orchestration de conteneurs. Donc, tu travailles avec des conteneurs. Par contre, la majorité de la complexité induite par Kubernetes, en fait, est gérée pour toi et est abstraite pour toi. Par exemple, dans Container Apps, tu vas pouvoir gérer des secrets, mais tu sais pas, en fait, qu'en dessous, c'est effectivement le gestionnaire de secrets de Kubernetes. Enfin, voilà, des choses comme ça. Au-dessus, je pense que tu arrives sur la couche PaaS. Donc là, tu retrouves les services type App Service, Spring Boot par exemple, le service dédié pour Spring dans Azure, le Spring Boot Service, ou alors encore tu retrouves Container Instance. Donc là tu es vraiment sur un service qui est complètement managé pour toi, avec des features de haut niveau, vraiment sur des plateformes as a service. Et donc là, alors si tu fais du Container Instance, c'est encore de la containerisation. Mais App Service, c'est pas forcément de la containerisation. Donc, tu vas également héberger de l'applicatif pur, quoi. Tu as aussi de l'orchestration, mais c'est vraiment encore plus haut niveau. Tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Tu configures juste deux, trois paramètres et ta scalabilité se fait automatiquement. Là où, sur les couches plus basses, tu as plus la main dessus. Et enfin, pour finir, si tu montes encore d'un cran dans l'abstraction, là, on va trouver des Azure Functions. Alors là, tu es presque dans un fauteuil, entre guillemets. Tu ne gères quasiment plus rien en termes d'infra, de scalabilité, de fonctionnalité, d'orchestration. Tu as juste à te focaliser sur ton code dans l'Azure Function. Et puis, c'est tout. Donc, tu as vraiment la main sur quasiment rien. Mais ça te permet d'aller très vite. Voilà.
D'ailleurs, justement, les Azure Functions, c'est du Kubernetes qui est derrière ou pas?
Alors, très bonne question.
Question de balle.
Ouais, c'est ça. Alors, je pense qu'historiquement, ce n'était pas le cas. Je pense que c'était plutôt sur l'autre service dont j'ai oublié le nom, qui fait également de l'orchestration, sur Service Fabric, voilà. Et je pense que avec les nouveautés sur Azure Functions que tu peux conteneuriser, alors je pense que d'une c'est possible de le faire et je pense que Microsoft se laisse la liberté de le faire aussi, ouais, sous le capot. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a un mode hybride, quoi.
D'accord. Oui, donc en gros c'est par rapport à l'épisode qu'on avait fait sur les bases de données et puis par exemple sur les bases de données SQL Server, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que on a les AKS, le service AKS, où là, on a une VM d'un serveur SQL Server. De la même façon, on a un serveur d'AKS sur lequel on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et puis après, on peut avoir les versions SQL Server Azure, où là, on a une couche d'abstraction, pardon, et qui permet de se focaliser véritablement sur le business. Et on a la même chose au niveau des Azure Container Instance, quoi.
Ouais, c'est ça, clairement. En fait, là, maintenant, tu as vraiment à ta disposition, je dirais, à chaque niveau, un service qui te permet soit d'abstraire ce que tu n'as pas envie d'abstraire, mais tout en te laissant la possibilité d'avoir la main sur certaines choses. Et en fait, en fonction de ton besoin, tu vas te positionner à un niveau qui te convient le mieux, quoi.
devdevdev.net. Richard Clark.
Et alors, donc derrière, dès qu'on parle d'architecture avec Kubernetes, on a tout de suite derrière le terme de microservice qui apparaît. On a des solutions qui nous permettent d'isoler des architectures de microservices.
Ouais, alors effectivement, en fait, le fait de déployer sur un container apps, alors ça oriente et c'est très adapté pour les architectures microservices. Déjà, le fait de déployer sur Container Apps, c'est uniquement pour le workload, donc uniquement pour les applicatifs. On ne va pas chercher à héberger dessus de l'infrastructure. Typiquement, un SQL Server containerisé, ce n'est pas l'objectif. Ensuite, ce que tu peux très bien faire assez facilement également, c'est d'isoler par environnement. Donc si maintenant tu veux isoler, on va dire, des applications qui ne doivent pas communiquer entre elles, qui doivent être isolées d'un point de vue réseau, d'un point de vue fonctionnalité également, d'un point de vue secret, enfin, etc. Tu peux tout cloisonner par environnement. Donc il y a cette notion d'environnement que tu vas créer au travers du portail, au travers de Bicep ou autre. Voilà. Donc effectivement, il y a tout est fait pour que ce soit orienté microservice. Alors après, microservice ou service, entre guillemets, avec une scalabilité qui est très intéressante et l'isolation par environnement. Voilà, je ne sais pas si Damien, tu voulais rajouter un truc, mais à mon avis, voilà, c'est à peu près ça le principe.
Non, c'est ça, c'est vraiment très clair.
Alors, si je veux créer ma première app, comment je procède?
Ouais, alors ça, c'est assez simple en fait. Tu peux le faire, je dirais, de différentes manières. Alors, tu peux le faire sur ton poste, parce que tu passes par le CLI Azure CLI, il faut juste rajouter un module en plus. Mais tu as toutes les commandes qui te permettent de déployer depuis ta machine locale vers une instance Container Apps très facilement. Il suffit simplement d'être à la racine de ton projet, boum, tu lances la commande. Tu peux aussi déployer une application depuis un registry privé ou public, peu importe. Tu peux également le faire en CI/CD. Donc en fait, je trouve que ils ont vraiment développer un environnement qui est intéressant parce que tu peux vraiment faire plein de choses. Et en plus de ça, tu peux le faire de manière automatique sur les CI. Enfin, ce qu'on va chercher à faire dans la finalité, quoi. On va vouloir faire de la CI, faire de la CD. Et ça, c'est possible de faire. Ensuite...
Mais là...
Vas-y. Alors après, effectivement, quand tu vas chercher un peu à travailler avec Container Apps, tu peux créer un environnement par le portail, forcément. Tu peux faire de l'ARM, tu peux faire du Bicep. Tout récemment, je crois depuis la semaine dernière ou 10 jours, tu peux le faire en Terraform. Ça, c'est nouveau. Ça met un petit peu de temps. Et tu peux également gérer toute la partie secret à l'intérieur de tes déploiements avec les registries qui vont bien et ainsi de suite. Donc, je dirais que l'écosystème de déploiement, de DevOps, de tooling, il est vraiment complet. Ça continue de s'enrichir et je trouve qu'on peut déjà faire plein de choses avec.
Alors, moi, je voudrais juste un exemple bien concret en tant que développeur. Si je commence j'ai développé une application et je veux la mettre en œuvre, est-ce que je peux la développer sur mon PC sans être connecté à Internet? Est-ce qu'il y a des outils qui existent ou est-ce qu'il faut forcément que j'ai accès à Internet et j'ai accès à ma plateforme Azure?
Ouais, alors pour le coup, si tu veux tester le déploiement vers un container apps, alors là, effectivement, il te faut Internet, ça c'est sûr. Après, comme c'est basé sur des conteneurs, voilà, l'objectif, quand même, c'est que à partir du moment où ça fonctionne correctement sur ta machine, une fois déployé, ça va fonctionner de la même manière. Il faut juste mettre un peu de config pour exposer les ports, exposer les URL et autres. Mais enfin, ça fonctionnera de la même manière. Donc, en gros, si tu es serein d'un point de vue développement local avec ton conteneur et tout, normalement, tu devrais retrouver la même sérénité une fois déployé, quoi.
Oui, donc ça veut dire que tu développes avec tu peux développer en local avec ton propre container, et c'est une fois que ton container est prêt, c'est ça que tu publies véritablement vers, en fait,
quand on publie, on parle de révision dans container app, et au fait, quand on va créer la container app, on va sélectionner l'image Docker qui va tourner sur le container app, et ça va créer une toute première révision. Les révisions sont immutables, c'est-à-dire que dès qu'il y a un changement sur la partie révision, il y a une nouvelle révision qui est créée. Alors, je parle ici de révision, je vais faire bien la différence entre tout ce qui est au niveau du scope de la révision et tout ce qui est au niveau du scope de l'application. Tout ce qui est au niveau du scope de l'application, ben, c'est simplement nos secrets, nos connection string, etc. On a aussi la configuration de l'ingress, ça on y reviendra par après, c'est savoir comment on peut accéder à notre container app. Tout ce qui est configuration d'Apple, par exemple, donc c'est vraiment un petit peu tout ce qui est parti, je vais dire, plus infra et configuration d'application. Ça, c'est l'application scope. La deuxième partie, c'est la revision scope. Ici, c'est vraiment dire, OK, ma révision, c'est telle image avec tel tag qui va tourner. Donc, si on change l'image qui tourne, on crée une nouvelle révision. Mais dans la partie révision, on va aussi retrouver tout ce qui est paramétrage des scaling. Donc, si on change la manière dont l'application est scalée, par exemple, sur le nombre de requêtes entrantes ou sur base du CPU, on va créer une nouvelle révision. Au niveau des révisions, on a aussi la configuration des props. Et donc, tout ça crée systématiquement des nouvelles révisions. La révision, si on prend en fait le template, enfin le ARM, le JSON, donc le Azure Resource Template, c'est vraiment le nœud template, c'est ça qui est la partie révision. Si on change quelque chose là-dedans, on crée une nouvelle révision.
Alors, oui, donc dans la révision, tu as la définition de, il y a ton application.
Oui,
de façon bête et méchante. Et puis après, tu as tout un autre type de paramètres, genre le scaling, comme tu disais. Et
les props aussi, par exemple.
Alors, les props, c'est quoi
les props, c'est. En fait, on a dans Kubernetes, on a différents types de props. On a le liveness prop, qui dit OK, mon application, elle tourne. Liveness prop, s'il répond plus, ben, simplement, ce qui va se passer, Kubernetes va tuer l'application. Mm-hmm. On a le readiness prop. Alors, le readiness prop, c'est, on va dire à Kubernetes, attention, mon application elle tourne, mais là, je ne suis pas prêt à recevoir des requêtes HTTP. Alors, c'est très important parce que si, par exemple, le container se lance et prend un petit peu de temps avant de se lancer, avant d'être prêt à pouvoir traiter les requêtes HTTP, eh bien, il ne faut pas que le load balancer redirige les requêtes HTTP vers notre container à ce moment-là. Et enfin, le troisième prop, c'est le startup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kubernetes, si au bout d'un certain temps, notre application ne passe pas dans un statut « je suis prêt à recevoir des requêtes HTTP », il va tuer le pod. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'on ait des apps qui, pour une raison quelconque, prennent du temps à démarrer. Et voilà, c'est légitime, c'est voulu, c'est comme ça. Et dans ce cas-là, on va rajouter un startup prop, ce qui veut dire, OK, oui, je sais, elle n'est toujours pas prête à accepter des requêtes HTTP, ça prend du temps, c'est normal, ne touche pas à mon application, ne la tue pas.
Fais pas chier, j'ai pas que ça à faire.
Voilà, c'est ça. Alors, les props, ils peuvent soit être des requêtes HTTP, soit des requêtes TCP. Et donc, comme je dis, c'est lié à une révision. Alors, contrairement à Kubernetes qui lui propose des props qui, par exemple, peuvent être du gRPC ou de l'exécutable, Azure Container Apps, lui, ne le permet pas. Alors, pour revenir sur la révision, on peut configurer deux modes de révision. On a soit le single ou les multiples révisions, ben, c'est très simple. Soit on peut avoir qu'une seule révision qui tourne en même temps pour une container apps, soit on peut avoir plusieurs révisions qui tournent au sein d'une même container apps. Et dans ce cadre-là, on peut faire du split du trafic HTTP et dire, OK, voilà, j'ai une nouvelle révision, j'aimerais bien vérifier qu'elle fonctionne bien. Donc, ce qu'on appelle un peu du canary release. Hein. En gros, c'est vraiment lié à cette image qu'on a dans la mine où, si on voulait aller voir s'il n'y avait pas du gaz toxique dans la mine, on avait le petit mineur qui allait avec son canari et voir si le canari ne tombait pas dans les pommes.
Oh, on aurait... ça revient un petit peu à de l'A/B testing, non?
Oui, c'est ça, c'est exactement ouais. Ça. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, comme je ne suis pas sûr, je ne vais pas envoyer tout le monde vers ma nouvelle révision, je vais envoyer 10% des requêtes, par exemple, vers cette nouvelle révision et je vais garder 90% vers l'ancienne révision. Ça, c'est de multiples révisions. Et ce qui permet effectivement de faire graduellement un passage d'une ancienne version à une nouvelle version de l'application.
Oui, donc une fois qu'on a, on a mis en place sa révision qui va bien, comment on gère l'accès aux différents services? Parce que j'imagine que le but, c'est de pouvoir gérer ces accès, quoi.
Oui, c'est ça. Et alors là, on va parler de ce qu'on appelle l'ingress. L'ingress, c'est ce qui va permettre de dire si on peut accéder ou non à l'application. Et cette application, on va y accéder via ce qu'on appelle le Fully Qualified Domain Name, donc le FQDN. C'est simplement l'URL qui sera générée pour pouvoir accéder en fait à notre container app. Alors, l'URL, c'est assez simple. Hein. Ça sera https://, le nom de la container app, point, un identifiant unique pour l'environnement, point la région, point azurecontainerapps.io. Cet ingress, on a deux possibilités. Alors, déjà, l'activer ou pas. Parce qu'on peut décider de ne pas activer l'ingress. Ça peut être intéressant, par exemple, si une application, personne ne doit accéder à notre container app parce que c'est un container app qui fait de l'event driven. Il n'y a pas besoin d'activer l'ingress. Si on active l'ingress, on a deux possibilités aussi. On a soit external, et dans ce cas-là, tout le monde a accès à la container app, ou alors on a l'internal ingress, et dans ce cas-là, seuls les autres container app du même environnement peuvent accéder à cette container app. Donc c'est vraiment, ça ajoute une isolation au niveau d'un container app environnement, en fait.
D'accord. Ouais, donc on peut avoir quelque chose de très fin, quoi, au niveau de...
C'est ça. Tout à fait.
Et alors là-dedans, là vous en avez parlé au tout début, on a un terme qui est cher à Laurent Campé, qui est Dapper. Donc je crois qu'à l'intérieur de Container Apps, il n'y a pas que du Kubernetes, il y a aussi la possibilité d'avoir du Dapper.
Oui, c'est exact. Alors en fait, du coup. Dapper, donc D-A-P-R, quand même, je précise, parce que pas qu'on se trompe avec le mini ORM D-A-P-E-R. Donc le Dapper D-A-P-R, c'est un runtime qui va fonctionner au sein du cluster. Alors du coup, comment il s'installe? Mais en fait, il est déjà préinstallé quand vous créez le container apps. Et c'est très simple en fait, hein, ils ont simplement la commande Dapper init sur le cluster, et puis automatiquement Dapper il s'occupe de s'installer sur le cluster, mais ça on le voit pas quand on crée le service. Donc du coup Dapper, qu'est-ce qui va, une fois installé sur le cluster, qu'est-ce qui va permettre de faire d'un point de vue développement et d'un point de vue logiciel? C'est qu'il va implémenter un pattern qui s'appelle le pattern sidecar. Donc en gros, Dapper va être, pour chaque application déployée sur le cluster, Dapper va mettre en place un sidecar à côté de l'application. Et dès qu'on va vouloir interagir vers l'extérieur, donc vers un élément d'infrastructure, un SQL Server, un Redis, un Cosmos, enfin ce que tu veux, ou même en dehors d'Azure, ou alors même vers un autre microservice dans le même cluster, en fait, il va agir comme une couche d'abstraction. C'est-à-dire que ton code, il communique avec Dapper via une URL particulière. Et au-delà de Dapper, mon code ne sait pas avec quoi est-ce qu'il communique. Donc, quand je vais vouloir me souscrire à un topic, lorsque je vais vouloir stocker de l'état, lorsque je vais vouloir requêter de l'état, en fait, je demande à Dapper tous ces éléments, mais mon code ne le sait pas. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et cette couche d'abstraction, elle est plutôt intéressante puisque ça permet en fait justement de focaliser son code sur le métier. On va plus venir gérer en fait les différents SDK, on va pas faire du service discovery, par exemple dans les clusters, puisque Dapper le fait pour nous, etc., etc. Donc ça, c'est l'avantage premier de Dapper, c'est ce pattern sidecar qui est implémenté de facto avec Dapper. Le deuxième avantage, c'est que Dapper implémente tout un tas de bonnes pratiques. Dapper, par exemple, implémente le standard OpenTelemetry. Ça veut dire que si je le souhaite, je peux très facilement installer sur mon cluster un outil de monitoring qui implémente le même standard. J'active le monitoring ou le tracing dans mon cluster. Ça, c'est très facile, c'est juste une petite ligne de configuration. Et automatiquement, mon outil de monitoring, il récupère tous les événements et les logs qui se passent d'un point de vue applicatif dans mon cluster. Et automatiquement, en fait, j'ai à ma disposition un outil de monitoring de microservices prêt à l'emploi. Donc, rien que le fait d'implémenter des bonnes pratiques et d'implémenter des standards comme OpenTelemetry, ça permet derrière de brancher en fait n'importe quel outil qui permet en fait facilement d'avoir du monitoring dans son cluster. Donc il apporte un peu tout ça. C'est souvent comparé à un service mesh, sauf qu'un service mesh, il n'est pas forcément intrusif dans le code, alors que Dapper, il l'est. Mais il n'est pas aussi puissant qu'un service mesh, je dirais, parce que, il n'implémente pas des fonctionnalités, on va dire, avancées d'un service mesh, comme du routing de messages, du routing réseau, je veux dire, d'invocation de service ou de routing ou des choses comme ça. Donc du coup, ce qui est
Oui,
intéressant avec...
c'est vraiment de l'abstraction, quoi.
Oui, c'est ça, c'est de l'abstraction
C'est vraiment.
applicative. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, ce qui est super intéressant avec Container Apps, c'est qu'il est inclus de base dedans. Donc en fait, on n'a même pas non plus à gérer l'installation, le cycle de vie des pods système de Dapper. Enfin, tout ça est géré by design par le service. Et donc, en fait, ouais, on a rien à gérer, c'est à dispo sur étagère, quoi.
Ouais, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le Azure Container Apps, ce n'est pas uniquement une abstraction de Kubernetes, mais c'est également une abstraction de Kubernetes plus de Dapper, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, il y a les deux. Et effectivement, alors après, Dapper, il est installé. Alors, tu l'utilises ou tu ne l'utilises pas, hein, ça tu choisis. Mais en tout cas, il y a tous les éléments, je pense, je dirais, pour qu'un développeur se sente à l'aise s'il veut faire de l'orchestration de conteneurs et s'il veut faire du microservice. Tout est là, on va dire, pré-mâché, et tous les outils sont là pour le faire de la bonne des manières, quoi, de la meilleure des manières.
D'accord.
Okay. Richard, juste tantôt, tu parlais de, tiens, moi, je développe mon code sur ma machine et comment ça fonctionne quand je publie dans Azure Container Apps. Alors évidemment, Dapper, si on utilise Dapper, ça veut dire que côté développement, on devra nous gérer par contre nos sidecar Dapper avec nos applications. Même si c'est transparent pour Azure Container Apps, dans la partie développement, ben, on doit gérer cette partie-là. La deuxième chose, c'est que Dapper, comme on l'a dit, c'est une couche d'abstraction. Bien souvent utile dans la plupart des cas, mais si par exemple tu as besoin d'une spécificité d'un service, par exemple une spécificité d'Azure Service Bus, elle sera peut-être pas forcément disponible via Dapper dû à cette abstraction qui permet en fait de pouvoir switcher de service comme on veut, quoi.
Et alors, comment ça se passe au niveau j'allais dire, de l'authentification? Parce que là, on a des microservices qui communiquent entre eux, des services extérieurs, etc. Comment ça se passe?
Alors, tu ne vas pas me croire, mais c'est aussi également intégré dans Azure Container Apps. C'est bien fait.
Ouais.
Et c'est une belle transition par rapport à Dapper, parce qu'en fait, de la même manière que fonctionne un petit peu Dapper, on a vraiment un authentication middleware qui va fonctionner sous forme de sidecar, donc je veux dire un pod qui tournera dans le même réplica que notre application, et qui va se placer entre l'ingress et notre application. En gros, si on décide d'activer l'authentification dans Azure Container App, toutes les requêtes HTTP qui vont arriver passeront par ce middleware qui, en fait, fonctionne un petit peu comme un proxy. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire dans Azure? On peut, en fait, ajouter un IDP qu'on souhaite, que ce soit Microsoft. Alors, si on prend Microsoft, on peut choisir soit juste l'AD sur lequel Container App tourne, seuls les utilisateurs de cet AD peuvent se connecter, ou on peut dire plusieurs AD, ou on peut même spécifier tous les comptes Microsoft peuvent se connecter, donc les @life.fr. Mais aussi, on peut définir des identity providers tels que Facebook, Google, Apple, ou même si on a un OIDC custom, on peut très bien configurer un OIDC custom comme identity provider. On a même la possibilité d'avoir plusieurs identity providers et donc de permettre à l'utilisateur de choisir sa façon de se connecter. Comme j'ai dit, ça fonctionne sous forme de sidecar pattern. Et on a quand même la possibilité qu'on configure l'authentification, c'est de dire, soit tu peux accéder à mon application et je t'autoriserai seulement certaines pages si l'utilisateur est authentifié, ou alors je peux carrément dire, je ne délivre pas l'application, il faut absolument passer par l'authentification avant de pouvoir accéder à l'application. Mm-hmm. Et donc, si on va sur www.myapp.com, dans ce cadre-là, on va d'abord arriver sur une page qui va demander à l'utilisateur de s'authentifier et ensuite on pourra accéder au site web. Alors, je dirais, c'est vraiment un reverse proxy qui va répondre en fait à des URL qui sont préfixées par .auth/, et on aura le login qui permet tout simplement de faire l'authentification. On a aussi le logout, etc. Et en fait, une fois authentifié, qu'est-ce qui va se passer? Ce middleware, il va rajouter des headers qui vont ensuite être envoyés à notre application, qui sont des headers qui commencent par x-ms-client-principal. Et dans ce cadre-là, on aura le nom, qui est par exemple l'adresse email, on aura le token JWT, etc.
Donc ça veut dire que, par exemple, dans une application, enfin, on va dire, il y a une application, l'application principale sur laquelle tu t'identifies, qui va aller communiquer avec un microservice dans lequel il y a ce besoin d'identification. Sur l'application microservice, il va falloir que tu gères quand même la réception de cette identification.
Si tu veux travailler avec les JWT pour, par exemple, gérer les autorisations, oui, tu auras besoin effectivement de récupérer ce dernier.
D'accord.
Si c'était bien ça ta question.
Oui, c'est ça.
devdevdev.net. Richard Clark.
Après, vous vouliez parler de KEDA, mais je sais pas si c'est.
Je pense qu'on peut en parler quand même rapidement parce que on a parlé de Container Apps avec Dapper qui est préinstallé dessus. Donc ça veut dire qu'on peut du coup exploiter Dapper nativement sur le service. Alors, on a un petit peu parlé pendant l'ingress de ce que disait Damien, mais en fait, sur Container Apps, lorsque je déploie mon application, donc je peux exposer une URL, donc je peux exposer un site web, je peux exposer une API REST. Donc jusque-là, pas de problème. Mais ce qu'on peut également faire, c'est qu'on peut également héberger, on va dire, d'autres types d'applications qui sont simplement des applications qui vont réagir à des événements et qui vont scaler en fonction. Donc, par exemple, j'ai une application qui est branchée sur un service bus, j'ai une application qui est branchée sur un Event Hub ou autre. En fait, lorsque je déploie sur Container Apps, je peux lui indiquer que je veux scaler cette application en fonction du nombre de messages qui se trouvent dans mon topic, par exemple. Et ça, c'est grâce à KEDA. Donc, KEDA, c'est un outil, ça s'installe également sur le cluster, qui va en fait permettre le scaling automatique des applications qui ne sont pas forcément des API web, d'accord ? Donc, qui n'ont pas forcément en fait cette notion de d'ingress HTTP. Et donc, il va automatiquement indiquer au cluster que attention, cette application-là, il faut la scaler. Donc, automatiquement, il va utiliser les API qui sont sous-jacentes de Kubernetes. Et donc, KEDA va scaler ce type de workload qui, du coup, coup va permettre de réagir à des événements, parce que sinon en fait ça serait pas possible. Parce que en fait Kubernetes lui ne va scaler que en fonction de l'ingress. Donc d'autres types d'événements, ça il sait pas gérer, mais c'est Keda qui va le faire. Et donc ça permet sur le cluster d'héberger en fait tout type d'application quoi, du web, de l'API, de l'événementiel, branché sur un topic, branché sur ce que tu veux. Et donc, ça permet finalement d'avoir un service de conteneurisation qui est très, très complet, quoi. Donc voilà.
Je vais peut-être dire une grosse connerie, mais pareil, par exemple, avec Microsoft Graph et avec, je sais pas moi, l'ajout de fichiers dans un site SharePoint ou sur OneDrive ou ce genre de choses, ça rentre en ligne de compte ou...
Alors, ça dépend. Il y a une liste, si je ne me trompe pas, il y a une liste de connecteurs Keda, donc tu ne peux pas non plus te brancher sur tout et n'importe quoi. En tout cas, le basique est géré, supporté, hein, le service bus, l'event hub. Tu peux même te brancher sur autre chose qu'Azure, hein, attention, hein, du RabbitMQ, etc. etc.
Ouais.
Alors, par contre, du graph, à mon avis, là, t'es un peu trop, je pense, high level. À mon avis, il faut mettre quelque chose d'intermédiaire, une logica par exemple, avec un trigger et puis un service bus en sortie. Je pense que là, il faut un peu d'infra quand même. Mais si je ne me trompe pas, tu as une liste en fait de connecteurs qui sont prévus. Et voilà.
Oui, il y en a 59 exactement.
Voilà, c'est ça.
C'est sur keda.sh. Et ouais, juste pour une info, parce qu'on ne l'a pas dit, Keda, c'est Kubernetes Event Driven Autoscaling.
Ah bah oui, bah c'était voilà. Évident, c'est Keda quoi.
Le nom était beau.
Et quid de la communication avec les autres services Azure ?
Alors, on a la possibilité de communiquer avec d'autres services Azure. Déjà, on le fait avec le registry. On a la possibilité de récupérer les images depuis l'Azure Container Registry. Mais en fait, on peut utiliser ce qu'on appelle les Managed Identities dans Azure, qui sont assez connues. Donc, une Managed Identity, c'est moi en tant que développeur, je veux développer une application qui utilise Azure Container Apps ou Azure GCAPS ou ce qu'on veut, ou Azure Kubernetes, qui accède à un service, Azure SQL, Azure Keybook, Azure Storage, et sans devoir gérer moi-même en fait, les credentials, quoi, les authentifications. Et ça se fait avec des Managed Identities, et ces Managed Identities sont aussi déjà intégrés dans Container Apps. Donc on peut les utiliser avec Container Apps pour... s'authentifier sans credentials à un autre service Azure.
D'accord, donc c'est plutôt que de passer par le système d'authentification de passage de token, tu peux utiliser directement ce genre de système.
Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus facile. Si je prends l'exemple de Azure Storage, on a la possibilité de générer ce qu'on appelle un API key. C'est évidemment déconseillé pour Azure Blob Storage de l'utiliser, mais on n'a pas, par exemple, si on utilise des API key, à devoir gérer la rotation des API key qui, à chaque fois, demandent des déploiements parce qu'effectivement, les configurations changent, etc. Donc, c'est vraiment une facilité par rapport aux communications entre services Azure.
D'accord. Alors, on va parler un petit peu des choses qui fâchent. On va parler un petit peu d'argent. Comment ça se passe ? C'est un système qui est... Alors, justement, comme il est serverless, je pense que l'avantage, vous allez me le confirmer, c'est que dès qu'on n'en a plus besoin, tous les serveurs se mettent en RAD et donc on n'a rien à payer. Mais
En fait, par rapport au pognon, du coup, je pense que c'est un sujet qui est super intéressant parce qu'en fait, il a sa propre spécificité en termes de pricing. C'est-à-dire que AKS, tu vas payer en fonction des VM, clairement, qui sont en dessous. Un app service, par exemple, ça va être un forfait. La fonction, ça va être... alors, tu as un plan de consommation en fonction de la volumétrie de traitement, mais tu as aussi un app service plan, donc un forfait, pareil. Container apps, ce qui est intéressant, c'est que tu vas payer en fonction de l'activité de tes conteneurs. Et ça, c'est quand même vachement intéressant parce que Container Apps, il intègre une notion de conteneur actif et de conteneur inactif. Et le pricing, il change. Donc déjà, comme l'a dit Damien, tu peux scaler de 0 à N conteneurs en fonction de ta charge. Mais en plus de ça, quand il ne se passe rien, les conteneurs, ils peuvent passer en mode idle. Donc en gros, en mode en attente. Et là, tu payes moins. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est un vrai challenge. Enfin, c'est une vraie opportunité, je veux dire, parce qu'il y a plein d'équipes, je pense, qui ont créé des API avec des Azure Functions ou des apps services, voilà, qui coûtent bah, minimum, ça coûte 70-80 euros par mois. En fait, avec Container Apps, ils peuvent économiser énormément d'argent juste en conteneurisant leur API et en l'hébergeant ce Container Apps, parce que en fait, ce mode idle du conteneur va leur faire économiser, je dirais, 2 à 3 fois en fait ce qui coûte aujourd'hui, ce que leur coûte aujourd'hui leur infrastructure. Donc ça, c'est super intéressant en termes de pricing. Oui.
Et t'as pas un coût en temps de réactivation des conteneurs?
Alors non, parce que ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas constamment laisser à minima un conteneur qui tourne. À partir du moment où il n'y a pas d'activité sur ce conteneur, donc le pricing il change. Mais par contre, dès qu'il y a l'activité qui revient, t'as pas justement ce cold start, le lancement à froid que tu peux avoir dans la fonction. Ça, tu l'as pas en Container Apps. C'est pour ça qu'il est super intéressant en fait de passer sur ce type de hosting, quoi, parce que tu n'as pas le cold start et en plus tu as cette différence de pricing qui te permet d'économiser de l'argent.
Là, si je comprends bien, tu es en train de me dire que moi qui ai une app Azure, enfin, sur un web service traditionnel, j'ai plutôt intérêt, si j'ai pas beaucoup de trafic, à le passer sur ce système.
Ouais, clairement, ouais. Clairement, tu vas économiser de l'argent, c'est sûr. En plus de ça, avec un petit peu de config, là, tu vas pouvoir vraiment gérer ton scaling finement et pouvoir ben, finalement optimiser tes coûts, quoi. Enfin, clairement. Je trouve que tu as beaucoup plus la main que ce que tu peux avoir sur un app service en termes de scaling et de pricing qui va derrière, quoi.
Ouais, c'est un app service 2.0, quoi. Parce que...
Ouais, bon, après, la petite contrainte, enfin, je ne sais pas trop si c'est une contrainte, mais c'est que du coup, il faut que tu conteneurises. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais enfin, voilà, il y a forcément un petit surcoût au début.
C'est un autre sujet, quoi.
Ouais,
D'accord.
c'est ça.
Et alors, Damien, tu voulais nous parler des volumes des data?
Ben, voilà, vu qu'on ait besoin de voir stocker des fichiers, quelque chose ainsi, et en fait, on peut avoir 3 mécanismes. On peut en fait avoir tout simplement le file system du container. Et dans ce cas-là, ben, si le container n'est plus là, ben, il n'y a plus du tout de fichiers. Mais aussi, on peut utiliser par exemple ce qu'on appelle les Azure File Share, qui eux sont des stockages plutôt permanents. Et dans ce cadre-là, ben, on peut stocker de façon ben, permanente du coup les fichiers dans son service.
C'est tout. Et alors, pour terminer, quid du monitoring, comment on gère enfin, Christophe nous en a un peu parlé tout à l'heure, là. On peut
Oui.
voir véritablement tout ce qui se passe, quoi.
Oui. Alors, évidemment, c'est très intéressant de savoir les logs générés par nos applications. On a 2 types de logs. On a tout d'abord tous les logs qui sont liés à la console du container, donc tous les logs qui sont écrits par application. Si on crée une application en .NET, il y a déjà les logs qui se créent automatiquement, et puis il y a tous ceux qu'on met via le logger.info, etc. Et ensuite, on a tous les logs système qui vont dire OK, le composant Dapper a bien été créé, il a bien été mis à jour, etc. Et tous ces logs, on peut choisir la destination où on place ces logs. Alors, la destination, par défaut, c'est dans l'Azure Log Analytics, où c'est là qu'on va aller stocker vraiment tous nos logs. On a aussi la possibilité de le faire dans Azure Monitor, ou même de dire non, je ne veux pas du tout stocker mes logs. Qui n'est peut-être pas le meilleur choix. Même si on décide de ne pas stocker nos logs, pour une raison quelconque, on a quand même la possibilité, avec les Container Apps, c'est d'aller voir les logs en temps réel. Pour voir les logs en temps réel, on peut le faire, ben, par exemple, depuis le portail. Directement depuis le portail Azure, on a la possibilité de voir les logs en réel sur la console, enfin, de la console du container, mais aussi, via l'Azure CLI, on peut, avec la commande az container app logs show, suivi du switch --follow, on a la possibilité de voir les logs générés en real time par l'application. Et d'ailleurs, si on le souhaite, on peut même se connecter directement au conteneur et la console du conteneur et faire du bash ou pour exécuter des commandes directement dans le conteneur.
D'accord. Ouais. Le temps réel, si on a une application où on a plusieurs milliers de personnes en même temps, ça devient compliqué, quoi.
c'est bien compliqué, effectivement.
Mais pour le debug de l'application, c'est relativement simple.
Le temps réel est clairement prévu pour faire du troubleshooting et comprendre les soucis qu'on pourrait rencontrer, quoi.
D'accord. Alors pour résumer, j'allais dire une question à deux francs six sous. Si on vous disait pourquoi utiliser Azure Container Apps, qu'est-ce que vous répondriez?
Pour la simplicité, la flexibilité, la scalabilité. Christophe l'a dit, l'aspect financier qui est intéressant par rapport à d'autres services.
Oui, bah pour moi, je pense que dans un contexte où on est une équipe, on va dire, orientée dev, et qu'on n'a pas forcément des appétences ops fortes, je dirais, sur de l'orchestration, ou alors carrément une équipe dédiée pour ça dans un grand groupe ou autre, et bah moi, je pense que c'est vraiment un service sur lequel il faut se pencher parce qu'il fait beaucoup de choses pour nous. Toute la complexité induite de l'infra Kubernetes, elle est gérée pour nous. On a parlé des déploiements, on a parlé des installations des briques sur le cluster, de l'ingress, des révisions scope et autres. Tout ça, c'est géré parce que c'est pas facile. Ces notions-là ne sont pas faciles quand on est sur un AKS classique, on-prem. Tout ça est géré pour nous. Donc, quand on est dans un contexte d'équipe de dev, vraiment, moi, je trouve que c'est un service qui est vraiment adapté pour nous, quoi. Voilà.
Ouais, et j'allais dire, à partir du moment où on développe son application et qu'on décide de la mettre dans un container, c'est vraiment l'effort pour passer dessus est vraiment insignifiant, quoi.
Oui, clairement, oui. Alors, il y a deux, trois notions qu'il faut monter en compétence. Enfin, la configuration du cluster, les révisions, l'ingress, etc. Mais franchement, c'est très facile. Très, très facile.
Ok, écoutez, merci pour toutes ces informations.
Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée ou nous contacter sur Reddit ou via Twitter @devdevdev.net. Portez-vous bien et rendez-vous au prochain pull request.